RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis, toujours consacrée à la situation des jeunes aidants en France. Il serait plus de 500 000 dans notre pays, des jeunes qui endossent des responsabilités qui dépassent largement leur âge. Et ça, on en a beaucoup parlé dans la première partie de l'émission. Alors comment les aider, comment les accompagner, avec quelles initiatives? On va faire le point avec nos invités et puis bien sûr avec vos témoignages. Vous avez toujours la parole pour nous parler de votre situation. Si vous étiez jeune aidant, que vous avez aidé un proche, un parent, un membre de votre fratrie, venez nous raconter votre expérience, du tout comment vous avez été aidé, et si vous connaissez des associations ou des initiatives qui permettent vraiment cette aide et cet accompagnement, venez les présenter, on est curieux. 04 72 38 20 23 pour témoigner, par mail également à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et pour nous accompagner jusqu'à 11h, on a le plaisir d'accueillir trois invités. Alors toujours avec Guillemette de Préval. Rebonjour Guillemette.
Rebonjour Melchior.
Toujours journaliste pour la revue Ombre et Lumière de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. On a posé le décor dans la première partie. On a vraiment essayé de réfléchir autour de la situation des jeunes aidants avec... quelque chose qui est très important également dans votre dossier, c'est vraiment trouver de l'aide pour le coup, c'est trouver de l'accompagnement. Est-ce que ça a été simple ?
De trouver de l'aide pour toutes les personnes que j'ai pu interroger ?
Oui.
Non, parce qu'il y a déjà, avant de demander de l'aide, il faut déjà un peu savoir qu'on a besoin d'aide. Donc il y a un peu ça se fait un peu en deux temps. Et donc oser en parler, aller voir un psychologue ou dire que je sais pas un professeur ou à des copains que ça ne va pas ou aller toquer à la porte d'une association, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc d'où l'importance de la prévention et de voilà on parlait du mot jeunes aidants qui a forcément ses failles hein, comme mot parce qu'il y a forcément des limites, mais au moins de savoir que notre situation personnelle a une réalité plus collective, ça peut énormément aider les jeunes aidants à se faire aider. Et se faire accompagner.
Et d'où l'importance également de trouver des associations et de les présenter. Surtout, c'est ce qu'on va faire ce matin. Bonjour Axel Anderlé.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci beaucoup.
Dans cette émission, vous êtes la fondatrice d'une association qui s'intitule La Pause Brindille. C'est très joli comme nom, La Pause Brindille, et qui s'adresse aux aidants, aux jeunes aidants qui sont âgés entre 7 et 25 ans, qui sont confrontés à la maladie, au handicap d'un proche. Voire à l'addiction aussi.
Oui, exactement. L'addiction, c'est vrai que c'est une maladie aussi dont on ne parle pas souvent. Et nous accueillons les jeunes sans distinction de... Enfin, quelle que soit la pathologie de leurs proches, en présentiel sur Lyon de 7 à 25 ans et en digital plutôt à partir de la majorité digitale. Donc 13, 14 ans jusqu'à 25 ans.
Comment on les accompagne, ces jeunes ?
Pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant, c'est vrai que... Savoir que l'on a besoin d'aide, c'est pas simple, mais ce qui est encore plus difficile, c'est de qualifier son besoin d'aide. C'est de savoir de quelle aide on a besoin. Et je pense que c'est difficile quand on est adulte, alors a fortiori encore plus quand on est jeune, puisque c'est ce qu'on vit, c'est notre quotidien, c'est la normalité. Donc, de quelle aide on a besoin, ça va être en se confrontant à d'autres vies, à d'autres jeunes, à d'autres familles, qu'on va comprendre petit à petit les failles, les vulnérabilités qui sont les nôtres. Et comment on les accompagne derrière, en les écoutant d'abord.
Ouais.
C'est d'abord en les écoutant qu'on va pouvoir réaliser la diversité, la pluralité des besoins. Ça, c'est quelque chose sur... On insiste beaucoup sur cette pluralité, parce qu'il y a autant de besoins que de jeunes aidants, quasiment. Donc, on est dans la dentelle et dans l'humain. Donc, on les accompagne d'abord en les écoutant. Et c'est ce que nous avons fait en lançant une ligne d'écoute qui est nationale, qui est via le digital et qui est assuré par d'autres jeunes, en fait. C'est qui est très important. Voilà.
Entre
c'est
pairs, ouais.
Des pairs aidants, exactement. Pairs aidants. Donc des jeunes qui sont pas forcément des jeunes aidants, mais en tout cas des jeunes du même âge. C'était une demande de la part des plus jeunes de parler d'abord à des jeunes comme eux avant de parler à des psys, par exemple.
Pourquoi vous l'avez fondée, cette association? Est-ce que vous avez connu cette situation vous-même? cette association.
Non, ouais. J'ai la chance de pas être une ancienne jeune aidante, ou la chance, en tout cas, c'est ma vie. Je suis aidante simplement, et donc maman d'une jeune aidante. Moi, je suis atteinte d'une maladie lourde chronique. J'ai eu aussi un grave problème de santé, et puis j'ai une enfant handicapée. Et au milieu de tout ça, bah, j'ai une aînée, une fille aînée qui grandit comme elle le peut, un peu toute seule. Et c'est voilà, c'est en fait, elle m'a dit un jour une phrase qui m'a marquée, qui est fondatrice pour l'aventure de la pose brindille. Elle m'a dit: comment je vais faire quand tu seras morte, parce que je vais devoir m'occuper de ma sœur toute ma vie. Et j'ai mis quelques années avant de répondre à cette question. Et la réponse, c'est la pose brindille. Je peux pas faire plus clair, enfin en tout cas plus précis concernant sa sœur, je ne sais pas. Mais elle avait 5 ans et demi quand elle m'a dit ça.
Oui.
Et je me suis dit, cette charge mentale portée par ces jeunes était portée par, je l'ai vue portée par de nombreux autres jeunes.
Voilà, la pose brindille qu'on vous présente ce matin. Et puis une autre association également, l'association Soliane, que vous représentez ce matin, Alix Galinier-Varin. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de
nous accueillir. Oui.
Mais avec plaisir. Merci à l'équipe de Marseille, de Dialogue RCF à Marseille, qui vous accueille en studio. L'association Soliane, elle est plutôt tournée vers les familles où il y a un enfant en situation de handicap. Et c'est surtout aussi pour les jeunes aidants d'une même fratrie que vous vous tournez dans cette association, Alix.
Oui, alors déjà, vous dire, vous m'entendez bien là ?
On vous entend très bien.
Oui, je suis très touchée par le témoignage de la maman juste avant. J'en ai les larmes aux yeux, j'ai le cœur serré. C'est notre quotidien. Du coup, l'association Soliane, elle a 20 ans. Elle est née de l'énergie d'une maman qui avait un enfant en situation de handicap avec un très lourd diagnostic, qui a fait le tour de France pour avoir le diagnostic et qui finalement, retournée sur Marseille, s'est dit: c'est pas possible qu'on vive cela. Et donc, c'était vraiment des parents, à l'écoute des parents. Et puis, ses parents, ils ont leurs enfants, ils ont leur vie, et tous les moments de la vie vont être pris en compte, du lever au coucher, en passant par la nuit, tout ce qui peut se passer dans une famille touchée par le handicap. Et du coup, un jour, une maman nous a dit: mais moi, je suis partie un long week-end avec les personnes, l'association de la pathologie de son fils, et il y avait les jeunes, les frères et sœurs étaient occupés, on s'en occupait, on les chouchoutait, etc. Ça serait bien qu'on fasse ça. Ça, c'était en 2008.
Oui.
Et du coup, on s'est dit, on va le faire. Et depuis 2008, à Soliane, à Marseille, nous avons l'atelier fratrie, on l'appelle comme ça, qui est là pour les frères et sœurs valides, plus jeunes ou plus âgés que leurs frères ou sœurs en situation de handicap, et qui ont envie d'être chouchoutés. Alors évidemment, c'est les parents qui vont le décider, puisque les enfants étaient jeunes. Et que, il faut pas leur dire: tu vas là-bas parce que c'est bien, que tu vas faire du dessin ou du coloriage. Enfin, non, c'est: tu vas là-bas parce que, comme toi, il y a un frère, il y a une sœur qui a des difficultés, qui n'est pas tout à fait comme toi. Souvent, avec des enfants jeunes, le mot handicap n'est pas prononcé.
Oui.
Et le parent met beaucoup de temps à dire le mot handicap. Et puis, la notion d'aidant... Même moi, je l'ai appris très tardivement. Hein, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un nouveau mot. Alors, j'arrivais. Je le comprenais pas. Je ne l'exprimais pas. Maintenant, j'ai compris. Voilà. Du coup, depuis 2008, nous avons cet atelier fratrie. On a tout essayé, mettre tout le monde ensemble, tous les âges, les écrivants, les non-écrivants, etc. Et puis finalement, on avait commencé par un atelier. Un atelier d'écriture. Et on se séparait en deux avec une éducatrice jeunes enfants et psychologue qui prenait les jeunes et qui les faisait écrire. Elle faisait la secrétaire, elle utilisait la pâte à modeler, enfin voilà. Et puis moi, je tenais ceux qui étaient écrivants et donc qui pouvaient laisser quelques traces, etc. Mais c'était jamais dans le pathos. On n'était pas. Alors, on va parler du handicap.
Oui.
C'était qu'est-ce que c'est la vie ? Qu'est-ce que enfin voilà. C'était voilà. Ça, c'était depuis 2008. Et puis ensuite, on a évolué. On en a fait un atelier plutôt graphique, art plastique. Et voilà. Mais ça continue toujours depuis 2008, une fois par mois. Alors, on a remarqué que des enfants qui venaient tôt, c'est-à-dire à partir de 6 ans, 6, 7 ans, etc., ils allaient pouvoir rester longtemps. Ils en auraient besoin. Par contre, faire venir un ado, c'est juste impossible. Chez nous, les ados, ils restent pas. Et les ados qui sont restés, c'est parce qu'ils étaient venus petits. Et ça leur faisait du bien. Mmh. Voilà. Et j'ai encore une petite anecdote.
Oui.
Et un jour, une petite fille nous dit « Maman, quand sa maman revient, ils en ont un. » Alors ça voulait dire que eux aussi ils ont un frère, ils ont une sœur, un peu bizarre et voilà. Donc c'était voilà. Je m'excuse.
C'est très intéressant.
Intarissable.
Bon, on a une heure hein, de toute façon, donc
ouais,
on va
d'accord.
prendre le temps pour expliquer tout ça. Axel Anderry, ça vous parle ce témoignage d'Alix qu'on a entendu?
Ben,
ça
oui.
fait écho à ce que vous vivez vous dans votre famille.
Dans ma famille et puis dans l'association, on a aussi nous ce qu'on appelle des brins de partage sur Lyon. Donc on fait tous les mois des ateliers. Alors nous on a choisi de séparer les tranches d'âge parce que bah voilà au départ on avait moins de moyens, moins de ressources humaines, donc on mettait les ados et les jeunes adultes ensemble. Maintenant, on a séparé vraiment tout le monde, comme dans un centre de loisirs, les enfants, les ados, les jeunes adultes, parce que, évidemment, les activités sont différentes, mais surtout, la capacité à s'exprimer est différente. Voilà, un enfant, pour généraliser, parle beaucoup, très facilement de sa situation. Un ado va vouloir être là. Nous, on a beaucoup d'ados qui viennent, mais ils veulent parler de tout, sauf de ce qu'ils vivent. Et les jeunes adultes sont prêts à témoigner pour les enfants qui arrivent. Donc, c'est vraiment trois choses différentes. Et puis, nous, on a un festival aussi, festival annuel.
Il commence le 6 juillet cette année,
oui,
c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est le 6 juillet, c'est à Lyon, mais on accueille les jeunes d'où qu'ils viennent. Mmh. Et c'est vrai qu'on a des temps où on les met ensemble aussi, parce qu'il y a quand même ce souhait de s'entraider. En fait, j'ai l'impression que ça devient leur nature, ou est-ce que ça l'est au départ, et c'est pour ça qu'ils sont aidants. Bon, ça, c'est un vaste débat. En tout cas, ils ont besoin de s'entraider. Ils se parlent beaucoup entre eux, entre générations, quand ils se rencontrent. Et donc, on a des temps dans ce festival, où ils, notamment le temps des témoignages, qui est un temps très, très émouvant, où là, le micro circule et la parole est absolument libre. Et donc, on a passé beaucoup de temps à avoir de la joie, à rire, à faire des folies pendant la journée. Et puis, il y a un temps où, clairement, on pleure ensemble. Et ça fait du bien aussi.
Je rappelle que vous avez la parole ce matin dans Je pense donc j'agis pour apporter vos témoignages. On parle des jeunes aidants. Si vous connaissez cette situation ou si vous connaissez des associations, des initiatives qui permettent d'accompagner tous ces jeunes héros, comme on dit, venez témoigner au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Guillemette de Préval, comment vous avez recherché, vous, toutes ces associations utiles hein, qui permettent l'accompagnement? On a présenté JAD qui est certainement l'association la plus connue en France, qui a un vrai rôle aussi de porte-parole, de plaidoyer auprès du gouvernement. Et il y en a d'autres aussi, plutôt locales.
Oui, alors en effet, je suis très vite tombée sur l'asso JAD, qui est un peu la figure de proue dans ce domaine. Et ensuite, c'est un peu via les différents contacts que j'ai pu obtenir. Certains m'évoquaient d'autres structures comme la Pause Brindille, Soliane. C'est alors aussi par on a un service écoute nous à la fondation OCH, et donc les écoutants m'ont été aussi d'une grande aide pour un peu répertorier tout ce qui existait, notamment pour les frères et sœurs. Donc c'est Soliane, c'est comme ça que je suis tombée sur votre association. Et voilà, je pense que c'est surtout par bouche à oreille.
Ouais.
Voilà, on peut pas faire le tour évidemment de toutes les initiatives, mais c'est notamment grâce à toutes ces assos que j'ai pu obtenir des précieux témoignages, des personnes qui ont, par la confiance que les personnes avaient envers ces associations, elles ont accepté ensuite de me livrer leurs histoires. Mais voilà, et aussi en interne à l'OCH, notamment Gabrielle faisait partie d'un groupe de parole enfants 2, enfin jeunes enfants 2.
Ouais.
de parents concernés.
Alix Galinier-Varin, est-ce que votre association, on la connaît facilement? Est-ce que les jeunes aidants connaissent votre association? Ou là aussi, il y a un vrai travail de communication à faire pour dire, mais vous n'êtes pas seul, regardez, on peut un peu vous aider, on est là, on a des associations pour vous aider.
Alors, je pense qu'il y a beaucoup à faire parce que je n'ai jamais, là, je réfléchis, quelqu'un qui est venu, un jeune et qui m'a dit, ben voilà, je me rapproche de vous parce que j'ai vécu ces réalités, j'étais le petit frère, j'étais le grand frère, etc. Non, j'ai pas de souvenirs comme ça. Je me dis que le chemin, voilà, il y a encore du job à faire parce que ces personnes-là, elles existent, elles ont souffert. Ce à quoi je pense, c'est l'isolement dans lequel peut être une famille touchée par le handicap, mais alors tout le monde, hein, le père, la mère et les frères et sœurs, parce que on peut pas inviter quelqu'un quand on a un enfant qui hurle, qui crie, qui fait de toutes sortes de choses toute la journée. Et soit on le dit, soit à son meilleur copain. Mais du coup, si on le dit pas à son meilleur copain, est-ce que c'est son meilleur copain? On a eu ces réflexions-là, vous voyez. Finalement, à qui je le dis, à qui je le dis pas, on a eu ça pendant ces réflexions-là, pendant les ateliers. Mais les enfants, à ce moment-là, étaient amenés par leurs parents. Il fallait surtout pas qu'ils soient forcés à venir. Vous voyez, parfois certains parents forçaient parce qu'ils se disaient, bon, tu vois, je fais rien pour mon enfant, valide, il faut que je fasse, il faut que là, il y aille. Voilà. Alors, c'était pas un temps thérapeutique, mais s'il y avait quelque chose, une révélation, quelque chose qui se faisait, on allait faire en sorte que l'enfant puisse le dire, puisse témoigner, enfin, voilà. Donc, non, on n'a pas eu de jeunes qui directement sont venus comme ça.
Ouais.
Par contre, on a des étudiants, et c'est pas pour rien qu'ils sont devenus psychomotes, qu'ils sont devenus psychologues, etc., et qui sont venus peut-être chercher des stages chez nous, vous voyez, ou en tout cas une connaissance du terrain plus.
Voilà. Axel Anderlé, est-ce que vous confirmez, est-ce que parfois ces jeunes ont du mal à aller demander de l'aide?
Alors c'est peut-être là que on diffère un petit peu, c'est que nous on est très très axés réseaux sociaux.
Ah oui.
Donc, en fait, depuis le début, on a une action qui est ce qu'on appelle figital, moitié physique, moitié digital. Et donc, on va chercher les jeunes directement. On va pas forcément chercher leurs parents, ni les adultes qui les accompagnent, même si on a un très, très gros travail de sensibilisation. Donc, bien sûr, on le fait, c'est nécessaire, c'est indispensable. Mais on va aussi directement trouver les jeunes là où ils sont au quotidien, donc c'est-à-dire dans leurs établissements scolaires, ouais, et sur les réseaux sociaux, pour caricaturer un petit peu. Donc on va sur TikTok, où on a déjà 19 000 abonnés, on va sur Instagram, et bon, après ils sont pas trop sur, on est d'accord, ils sont plus trop sur nos réseaux à nous, Facebook et LinkedIn, là on va plutôt chercher des adultes, mais donc on va leur parler en faisant parler, enfin en écoutant leurs témoignages, en faisant passer les témoignages toujours anonymes. On a un podcast d'enfants aidants aussi, on a fait 25 vidéos témoignages. Donc l'idée, c'est de faire passer la parole pour permettre aux jeunes de s'auto-identifier, ouais, et de se dire, ok, ça c'est ma vie, et en tout cas ça résonne avec ma vie, et je vais me rapprocher de cette association. Donc c'est un peu long, puisqu'on est sur un sujet émergent, c'est un peu long, mais pour nous, en tout cas, ils viennent à nous directement. Et c'est aussi, je pense, le fait d'avoir cette transpathologie, d'accueillir tout le monde, de ne pas faire de hiérarchie, entre guillemets. Il y a des bonnes maladies, il y a des maladies honteuses. On a beaucoup aussi, nous, de jeunes qui sont sur des parents ou des frères et sœurs en troubles psychiques. Et puis le fait d'aborder la question de l'addiction, qui est très très tabou en France, hein, je pense notamment à l'alcoolisme, ce sont des enfants qui sont en grande souffrance. Et puis il faut pas oublier quand même qu'aujourd'hui les choses se cumulent. On peut avoir un enfant handicapé pour tenir, soi-même prendre des médicaments, devenir accro à ces médicaments, se mettre à boire, devenir accro à l'alcool.
Oui.
C'est des choses qui sont douloureuses et pas simples à entendre, qui sont un petit peu tabous, mais qui sont réelles dans les familles. Et donc les enfants subissent aussi parfois cette double peine. Donc il faut en parler de façon simple et et puis accepter tout le monde. Et plus on est ouvert et simple, c'est vrai que nous, on a cette simplicité dans les valeurs de l'association, la simplicité, la joie, la coopération, l'écoute entre pairs, voilà.
Et en tout cas, vous avez réussi à créer une vraie communauté, hein, la communauté des jeunes aidants, la tribu Brindy, c'est comme ça que vous l'appelez, où tous les jeunes aidants peuvent rejoindre cette communauté. C'est un lieu où chacun, c'est un espace où chacun peut s'exprimer, peut parler, peut à la fois trouver du soutien, mais aussi s'évader, extérioriser.
C'est vrai que le sujet étant au début, on teste beaucoup de choses. Et après, la question de la tribu Brindy, c'est ce côté communautaire qui est très rassurant et qui est très soutenant. En fait, ça apporte un sentiment apaisant d'appartenance. Ouais. Et c'est ce que les jeunes nous disent, en fait, quand on est arrivé chez vous, c'est un peu comme si on avait posé des valises. Alors, quand ils arrivent chez nous, ça veut dire ils arrivent au local, ils arrivent dans nos activités nombreuses, mais ils arrivent aussi sur nos réseaux. Et nous, on répond à chaque jeune qui nous écrit, et ils sont très 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 nombreux tous les jours. On a un petit groupe aussi en digital fermé, et voilà, on est dans ces communautés. Et on a aussi des communautés on a créé un projet directement dans les établissements scolaires où les jeunes créent des mini communautés au sein de l'établissement scolaire pour se reconnaître entre jeunes concernés. Là où ils sont, là où ils étudient. Et ça, c'est très important parce que ensemble, ils vont aussi trouver le courage. On parlait tout au début de la question de qualifier son besoin d'aide et de connaître son besoin d'aide. Le groupe aide à ça, aide à qualifier ce besoin d'aide, à pouvoir dire, il est légitime et là, tu as besoin d'être accompagné par le CPE, d'aménager tes temps scolaires, etc. Ouais. Ça aide à porter la parole aussi, le groupe. Et plus particulièrement quand on est jeune.
Oui. Alix Galinier-Varin, vous, dans l'association Soliane, vous proposez notamment des ateliers pour les enfants et les parents en même temps, vraiment pour pouvoir échanger sur toutes ces questions. Qu'est-ce que ça apporte, ce moment entre le parent et l'enfant ?
Alors, c'est pour que le parent lâche un peu, parce qu'il est pas seul à ce moment-là à surveiller son enfant. Il y a d'autres adultes, il y a les autres mamans ou papa d'ailleurs, et les enfants, il peut y avoir des enfants valides et parfois la fratrie, hein, en fonction de comment le groupe a été constitué et des places. Et du coup, la maman se dit, bon sang, mais ça, je l'ai jamais fait avec mon enfant. Et elle va peut-être découvrir des compétences, découvrir ou ce que fait une autre maman, ou ce que fait un autre enfant et qui serait peut-être presque là pour le sien. Donc, c'est vraiment être ensemble. C'est juste partager un bon moment, lâcher un peu, parce que on n'est pas seul responsable de son enfant, puisqu'il y a tous ces autres adultes. Et je pense que c'est un moment très très important. On repart avec une production, même si elle est minime, ça fait sens, on peut en reparler et on peut revenir, évidemment. Alors c'est pas tous les jours qu'on a ces ateliers là on les a surtout pendant les vacances, hein, les temps de vacances, où à la fois les mamans, les prises en charge sont relâchées, et on peut venir, parce que l'emploi du temps d'un enfant en situation de handicap, c'est lourd. Et s'il a un peu d'école, tant mieux. Il va avoir les prises en charge et il faut courir, quoi. Hein, voilà. Donc venir faire du bien-être, hein, de prendre soin de soi, c'est pas forcément la priorité, voilà. Et c'est ça que nous voulons essayer avec nos parents et leurs enfants.
Guillemette de Préval, ce qu'on retient aussi dans les témoignages qu'on peut lire dans le dossier de la revue Ombre et Lumière, c'est à quel point, alors même si parfois les jeunes sont aident de manière très naturelle, ils sont fragilisés. Ils sont fragilisés par cette situation, par voir leurs parents en souffrance, en grande fragilité. Est-ce que, d'après vous, on aborde ces jeunes différemment d'autres jeunes?
On aborde ces jeunes.
On doit leur parler différemment.
Oui. Est-ce qu'on doit leur parler différemment? Ouais, c'est des jeunes comme tout le monde, mais enfin, je veux dire, en tout cas, la manière d'aborder et de leur parler, évidemment, comme tout le monde. Je pense que la différence, c'est est-ce qu'on leur parle différemment? C'est quand on connaît vraiment leur situation. Je pense qu'au niveau émotionnel, c'est que tous évoquent quand même une. comme Manon tout à l'heure, une surcharge un peu émotionnelle qui parfois peut un peu exploser de temps en temps. Et sinon, je sais pas, en tant que, par exemple, en tant qu'amie ou voilà, je pense que c'est un peu difficile aussi de à la fois d'être à l'écoute, en même temps de pas endosser toute la charge émotionnelle que peut vivre ce jeune aidant. Ça, Manon, elle en parlait très bien aussi dans son témoignage. Elle a senti un moment que c'était parfois trop lourd pour ses proches, pour son compagnon, pour ses amis. Toute cette émotion qu'elle contenait en elle, elle a senti qu'il y avait un moment, il fallait qu'elle en parle
à
une tierce personne, ça débordait. Donc voilà, ça, je pense qu'il faut en avoir conscience quand on est ami ou proche d'un jeune aidant. En dehors du cercle familial, je veux dire. Après, leur parler d'une autre manière.
Ouais. Je parlais surtout aussi de l'approche. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Axel Anderley? Est-ce qu'il y a une approche qui est peut-être différente? Alors, c'est peut-être pas le bon terme, mais où il faut faire un peu plus attention aux mots utilisés.
Alors, nous, c'est vrai que ce qu'on conseille déjà, quand on dit comment on peut vous aider, l'association, c'est déjà, on leur dit... demander aux jeunes comment ils vont vraiment. Ouais. Voilà, c'est vraiment la première chose. Ces jeunes ne sont pas des jeunes qui se plaignent. Ce sont des jeunes qui cachent beaucoup, qui ne se sentent pas forcément légitimes pour dire leurs propres difficultés. Donc revenir avec douceur. Alors c'est vrai que ce sont des jeunes avant tout, je suis tout à fait d'accord. Ce sont d'abord des jeunes, et des jeunes classiques. Mais ils vivent quelque chose... ils me disent, ils nous disent à tous, hein, je pense que l'association JADE a dû dire exactement la même chose, non, c'est normal. Voilà, c'est normal, c'est ma famille, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon frère. Alors nous, on leur dit, oui, c'est normal, mais ce n'est pas ordinaire. Et donc, on est là pour écouter et puis revenir aussi, rappeler cette écoute et être vraiment prêt à l'écoute. Il faut que, l'autre jour, on a une de nos adhérentes qui est Sophie Belvisi, qui a fait un spectacle qui s'appelle Alzheimer, qui a connu l'Alzheimer précoce de sa maman, elle avait 16 ans. Donc elle est humoriste maintenant pour exorciser un petit peu tout ça. Et elle a fait un réel sur ses réseaux où elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée, où elle dit en fait, les copains, quoi, laissez-nous en parler. C'est-à-dire que quand on arrive enfin à en parler, dans une conversation, au café, avec vous, laissez-nous en parler, c'est-à-dire... OK, ça a peut-être un petit peu plombé la discussion qu'on a à ce moment-là, le samedi soir, mais si vous balayez cette discussion où là, on arrive enfin à dire ce qu'on vit et comme c'est difficile, en disant « Ouais, mais moi, au lycée, en ce moment, après, on va se renfermer. Et on va plus en parler. » Et donc, c'est vraiment... offrez-nous des espaces d'écoute aussi à nous, tout simplement en laissant exister ce sujet... un peu glauque par rapport au reste de votre vie, à vous, certes, mais voilà, écoutez-nous vraiment. Et
À qui il faut dire ça, d'après vous? Est-ce que c'est à tout le monde, aux jeunes, aux professeurs
Alors, je pense que là, pour le coup, c'est vraiment une position qu'on défend. Effectivement, ce n'est pas c'est pas juste quelque chose de l'ordre de l'expertise, quoi. Il y a des gens qui vont être experts des jeunes aidants, mais tout le monde a son rôle à jouer dans la société aujourd'hui. Effectivement, les profs, les parents, les aidants adultes, les malades aussi. C'est très très important aussi qu'on ouvre cette parole des malades qui puissent dire à leurs enfants, et toi, comment tu vis ça? On utilise souvent ce mot de tabou, parce que quand on est malade, et ça j'en sais quelque chose, on a ce côté un peu je me bats, je suis fort, je vais y arriver, et je veux pas imposer à mes enfants cette souffrance, donc nous aussi on fait semblant d'aller super bien, et à un moment si on fait tous semblant, on va pas y arriver, quoi. Donc il faut parler en vérité, il faut être en vérité, et à un moment il faut dire ok, moi j'ai beau être fort et j'ai beau là en ce moment me battre, en ce moment, je suis fatiguée. En ce moment, je m'inquiète. Et ça ouvre aussi une petite fenêtre pour l'expression des plus jeunes. Si on dit toujours, si on utilise toujours le mot de héros, de combat, et on le voit beaucoup en ce moment dans les cancers féminins, on est beaucoup là-dedans, mais ça peut avoir ses limites.
Et on va continuer d'en parler dans un instant avec vous trois, Guillemette de Préval, Axel Anderly et Alix Galinier-Varin. Vous continuez également de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour nous parler de la situation des jeunes aidants. Venez témoigner et nous présenter des associations que vous connaissez. 04 72 38 20 23. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Allez, 10h30 dans Je pense donc j'agis, la situation des jeunes aidants au cœur de cette émission. On en parle avec nos invités, puis bien sûr, on n'est rien sans vos témoignages. Alors allez-y, prenez votre téléphone et venez témoigner si vous êtes un ancien jeune aidant. On vous attend au 04 72 38 20 23.
Il fait toujours beau au-dessus. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Allez, on va terminer notre voyage avec Zao Tsagazan, la symphonie des éclairs.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec Guillemette de Préval, journaliste pour la revue Ombre et Lumière de l'Office chrétien des personnes handicapées, Axel Anderley, fondatrice de l'association lyonnaise La Pause Brindille, et puis Alix Galinier-Varin, coordinatrice d'une association plutôt située à Marseille qui s'appelle Soliane, qui s'adresse donc, on l'a dit, hein, aux enfants, notamment d'une même fratrie, aux familles également qui ont un vrai rôle à jouer. Et puis, il faut rappeler que dans votre association, Alix, vous êtes vraiment entouré de professionnels qui sont là pour écouter les enfants comme les parents.
Alors, professionnels, oui et non, parce qu'on a déjà dit que, enfin, Soliane, ce sont des parents qui écoutent des parents. Alors bien sûr, à l'intérieur de ces parents, dans ces communautés-là, il y a des professionnels, mais voilà, c'était vraiment... Soliane, c'est une association de parents qui est là en complémentarité de ce que font tous les professionnels autour du handicap, les médecins, les paramédicaux, etc., les institutions. Alors je dirais peut-être que c'est bien sûr, il y a des art thérapeutes, par exemple, qui animent l'atelier fratrie. Mais au départ, ce qui a motivé Soliane, c'était vraiment, nous parents, qu'est-ce que nous avons à faire, hein, sans qu'on sache en 2003 qu'on était aidant. Hein, encore une fois, c'est depuis très peu de temps qu'on le sait. Voilà, donc je peux répondre un peu plus, mais je veux laisser la parole aussi.
Oui, non, mais c'est intéressant, mais parce que sur votre site internet, vous dites aussi que vous êtes à la recherche de professionnels, peut-être de la santé, mais plutôt pour prendre en charge des enfants qui ont peut-être quelques soucis dans leur développement. Alors, c'est un grand terme aussi, mais ça fait partie aussi des cordes à l'arc de Soliane.
Oui, complètement. C'est-à-dire que un enfant, de quoi il a besoin après comment on va faire pour qu'il mange, pour qu'il parle, pour qu'il soit propre, pour qu'il aille à l'école, etc. Et pour cela, on a besoin de professionnels. Et effectivement, toute la journée, on cherche des professionnels pour les parents. J'ai pas d'ortho, j'ai pas de psychomote, je dois monter un dossier MDPH, etc., etc. Mais c'est nous parents qui réfléchissons là-dessus et qui allons aider les familles à trouver des professionnels. Hein. On va être facilitateur du quotidien et dans la proximité. Ben c'est ça, Soliane, c'est être dans la proximité, c'est-à-dire qu'on connaît le terrain, on va tout de suite vers tous les professionnels qui viennent aussi vers nous, et on se fait connaître pour que ensuite, par exemple, une orthophoniste qui a une liste d'attente longue comme un jour sans pain, eh bien, si elle sait qu'il y a déjà Soliane, qu'il y a d'autres choses, on peut d'autres soutiens, elle va se dire que ça va être plus facile pour elle de s'occuper de cette famille, voyez, plutôt que d'être la seule ortho lorsqu'une famille n'a rien. Donc ça crée une petite communauté. Hein, c'est dans ce sens-là que on va aider en disant, je dis toujours, dites que vous venez de la part de Alix de Soliane. Je dis jamais mon nom de famille. Hein. Moi, les gens pensent que je m'appelle Alix de Soliane. Voilà. Et donc ça marche dans le petit monde à Marseille. Hein, voilà.
Louise, vous êtes à La Roche-sur-Yon. Bonjour, Louise.
Bonjour. Alors moi, au début, qu'il y a eu ce sujet, je me suis dit, oh ben non, c'est pas pour moi. Et puis tout d'un coup, j'ai pensé à mon enfance, et ça fait très longtemps, évidemment, ça fait 60 ans, ça, puisque j'avais à peu près, avant 16 ans, que je m'occupais d'une grand-mère. Et d'une grand-mère, alors nous les avions, mes grands-parents maternels qui vivaient à la maison, ce qui a été très très difficile, entre guillemets, dans la famille, mais alors elle était nord-estimique, et c'est-à-dire que quand il y a eu une chambre qui s'est libérée en haut de la maison, il fallait aller la conduire pour monter dans sa chambre où elle aurait eu un malaise. Il fallait donc, c'est pareil, le matin, aller la chercher. On descendait, elle descendait à reculons au cas où elle aurait eu un malaise. Il y avait un jardin, mais c'était en face, la route de Rennes. Il fallait traverser la route de Rennes. Nous habitions à la sortie de Nantes. Et là aussi, elle aimait aller soigner les lapins, pas de problème, mais il fallait aller la traverser au cas où elle aurait eu un malaise sur la route. Et si par malheur je la laissais un peu trop attendre quand elle était de retour, il fallait que je surveille pour voir quand elle avait fini pour les lapins.
Oui.
J'étais pas très très bien, pas très très bien. Elle me faisait un peu la tête, je crois. J'ai connu mon ex-mari très jeune, je ne pouvais pas dire, j'avais 17, 18 ans, je ne pouvais pas dire que j'allais voir un garçon.
Et sur le coup, Louise, vous vous êtes pas vraiment rendu compte de cette situation. C'est un peu plus tard, vous, que...
Oui, au début, je crois que j'ai fait tout... Alors, peut-être quand même que... Non, je ne me suis pas forcément rendu compte. Oui, c'est avec plus tard, en y repensant, que je me suis dit que quand même, oui, j'avais fait pas mal de choses avec cette grand-mère et que ben, c'était pas toujours... Ça a été pesant, peut-être.
Pesant, oui, et pas ordinaire, également, comme on le disait tout à l'heure. Merci, Louise, pour votre témoignage au 04 72 38 20 23. Qu'est-ce que ça vous évoque, Axel Anderlé, ce témoignage de Louise?
Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. Ouais. Voilà, on le vit, c'est notre normalité. Et puis c'est, on comprend, ben là, on l'a compris ce matin avec l'émission, mais on comprend. Il y a quelques temps, j'ai rencontré une dame, je crois qu'il doit avoir 50 ans, et qui m'a dit, en fait, ça fait 30 ans que je suis en psychothérapie, et j'arrive pas à comprendre ce qui va pas dans ma vie depuis des années. Et puis, parce qu'on a discuté ensemble, elle m'a rappelé quelques semaines plus tard, et elle me dit, pour la première fois de ma psychothérapie, j'ai évoqué le fait d'être la grande sœur d'une personne handicapée. Et je me dis, bon, la petite ne va peut-être pas être super douée, mais en tout cas, elle n'en avait jamais parlé. Elle cherchait ses problèmes ailleurs, en fait, dans son travail, dans son couple, avec ses enfants. Mais
en général, les psychothérapeutes, ils vont chercher dans la cave, les sujets.
Là, en fait, c'est elle qui... Je pense que la psy n'était pas au courant de cette situation de famille, parce que pour elle, elle l'avait mise de côté. Et c'est des choses aussi qu'on peut... Parce que ça peut être très lourd, parce que ça peut être très culpabilisant aussi de se dire, j'ai mal vécu... d'accompagner quelqu'un. Enfin, la solidarité, heureusement, est assez valorisée. Et ça peut être difficile de dire, mais en fait, moi, je l'ai mal vécu. Je l'ai subi. Ça a été un poids, ça a été un fardeau. Alors là, c'est une grand-mère. Et d'ailleurs, on a effectivement beaucoup de jeunes qui accompagnent leurs grands-parents. Hein, tous les grands-parents ne sont pas en institution, en EHPAD, etc. Donc, il y en a beaucoup qui sont au domicile. Et de plus en plus, les parents travaillent encore. Et donc, les jeunes sont sollicités. Mais c'est ça pour quelle que soit l'ascendance familiale. En tout cas, c'est pas toujours simple de reconnaître ce que vient de dire ce que vient de dire Louise, que ça a pas été simple tous les jours, voire ça a été lourd.
Guillemette de Préval sur l'anecdote racontée à l'instant par Axel. Alors, j'ouvre une petite parenthèse parce qu'on avait fait une émission ensemble sur être frère ou sœur d'un frère ou d'une sœur en situation de handicap. Et en effet, ce genre de témoignage est très fort parce qu'on se rend compte à quel point ça peut avoir un impact quand même dans la construction, dans le développement d'un enfant qui parfois aussi connaît cette situation d'aidance avec son frère ou sa sœur handicapée.
Oui, et là, ça me fait penser à un témoignage d'Agnès, donc pareil, qui donne son témoignage dans la revue. Elle, c'est la petite sœur de sa grande sœur. Voilà, elle a pas donné son prénom, mais qui elle a été diagnostiquée schizophrène il y a 10 ans. Donc Agnès avait 17 ans et sa sœur a 3 ans de plus qu'elle, donc elle avait 20 ans. Et elle m'expliquait quand je préparais ce dossier, que ça avait été compliqué, enfin d'ailleurs c'est toujours compliqué de se dire qu'elle est l'aidante de sa grande sœur, enfin en partie, parce que sa grande sœur avait toujours joué le rôle au contraire de protectrice, enfin elle a toujours été sa protectrice, notamment lors du divorce de ses parents assez tôt, précoce, et donc elle avait toujours été là pour l'aider, et là d'un coup elle se retrouvait, enfin le rôle s'inversait. Et elle disait à la fois je me sens un peu coupable parce que elle a tellement fait pour moi, elle m'a tellement aidée que c'est quand même bien la moindre des choses d'être là désormais pour elle à cet âge. Et en même temps, elle évoquait que c'était quand même extrêmement lourd. Bon, notamment, on n'a pas beaucoup parlé de la maladie psychique jusqu'à présent, mais on dit souvent que c'est un peu un des handicaps les plus tabous parce que il y a plein de choses qui sont corrélées. Enfin, ça fait peur, etc. On ne sait pas trop. Il y a un côté invisible, donc un peu plus mystérieux parfois. Et voilà, on voyait bien toute cette difficulté à se dire, c'est ma grande sœur, et en même temps, désormais, je suis un peu en partie son aidante, alors qu'elle m'a tellement apporté étant plus jeune.
Alix Galinier-Varin, des Louises, comme on a entendu, il y en a beaucoup, qui, au bout de quelques années, peut-être se rendent compte qu'elles ont vécu peut-être une période particulière en situation d'aidance.
Alors, j'ai pas le recul nécessaire, même en 20 ans, parce que il faudrait que je recontacte tous ceux qui sont passés par l'atelier fratrie et de voir où ils en sont. Alors, j'ai quelques témoignages. Ces jeunes qui viennent vers nous et qui disent, voilà, je suis le frère d'eux, vous en êtes occupés, ou je suis la sœur d'eux, et etc. Et qui viennent vers nous avec des métiers, des paramédicaux ou même des médecins. Et voilà. Donc, ils ont en fait, ils ont été un petit peu préservés, ils ont été un petit peu laissés de côté. Toi, tu peux, hein, donc je dois m'occuper de ton frère, mais je te laisse, tu es responsable, etc. C'était vraiment ça qu'ils ont vécu. Parfois, les parents ne se sont pas complètement rendus compte de la lourdeur du handicap et faisaient garder des petits par des un peu plus grands. Voilà, c'est compliqué, mais parfois les parents ne se rendent pas du tout compte. D'ailleurs, ils savent même pas qu'ils sont aidants eux-mêmes. Hein. Alors donc, c'est juste, je suis la mère d'eux et puis basta. Il est un peu pénible en ce moment, il dort pas, oui d'accord, il mange pas, oui d'accord. Mais bon, c'est la normalité pour nous. Donc nous, les mamans, nous. Alors, je sais pas si je l'ai dit, je suis parent moi, hein, oui, parent d'enfant en situation de handicap. Je me souviens plus. Et donc du coup, on croit que c'est normal tout ce qu'on vit, moi aussi, hein, et que nous sommes des machines à compenser, à détourner, à se dire bon, pour plus de facilité, etc. Et les frères et sœurs, ils font pareil. Ils sont dans une imitation de comment je vais faire pour éviter la crise, pour éviter que ça soit lent, etc. Ils sont dans une adaptation constante. Là, juste hier ou avant-hier, j'ai eu une maman qui me dit « je ne peux plus m'occuper de ma grande fille ». Elle peut plus aller à la natation qu'elle adore, elle peut plus aller au tennis qu'elle adore. Et donc je lui ai dit, écoutez, je vais vous orienter vers une association de TISF, de techniciennes d'intervention sociale et familiale, qui va emmener votre fille valide et qui va vous laisser avec l'enfant en situation de handicap, ou le contraire, pour que vous puissiez vous occuper des deux. Heureusement, ça existe, mais beaucoup de familles ne le savent pas. Et il y a aussi quelque chose, c'est... comment on fait pour accepter l'aide? J'ai été consternée la première fois que je proposais de l'aide bénévole d'une association tout à fait bien, enfin je connaissais les personnes, etc. Et les familles m'ont dit non, nous on n'a pas besoin d'aide. Elles voulaient tout régler elles seules et c'était trop dur de faire rentrer quelqu'un parce qu'elles vont se dire mais il y a trop de choses qu'on peut pas montrer. Hein, donc voilà, c'est compliqué. Ces jeunes, pendant longtemps, ils ont vécu des choses tellement bizarres que c'est compliqué de. C'est un peu laver le linge sale, vous voyez. C'est pas possible. On le fait à l'intérieur, mais on peut pas. C'est trop. Il y a de la pudeur. Il y a de la pudeur. On peut pas décrire ce quotidien. Personne le sait. Personne.
Je suis très touchée. D'abord, merci Guillemette, je viens d'apprendre qu'on pouvait effectivement trouver de l'aide. Moi-même, je ne le savais pas, les TISF. J'ai ma grande fille qui a tout abandonné parce que je ne pouvais plus rien, je ne pouvais plus l'amener nulle part. Et elle est aujourd'hui en internat parce que sa petite sœur prenait toute la place et mes maladies à moi aussi. Voilà, c'est touchant en fait de voir que même quand on est dans le milieu, on ne sait pas, on ne connaît pas toutes les solutions et parfois il y en a. J'aurais bien aimé qu'elle continue le sport, par exemple. Je sais plus ce que je voulais dire parce que je suis émue.
Ça vous a perturbé.
Voilà, je voulais rebondir sur la fin de l'intervention de Guillemette.
Voilà, alors attendez, c'était il y a 2 minutes.
Oui,
il
faut c'est
que
ça.
Je me remets,
pas de Guillemette,
non,
pardon.
D'Alix.
Mais bon, voilà.
C'est pas grave parce qu'on va accueillir un auditeur en attendant de reprendre vos idées. Charles, vous êtes à Angers. Bonjour Charles.
Absolument, donc je suis prêtre.
Oui.
Et je pense, comme beaucoup de chrétiens, que la vie chrétienne concerne toutes les dimensions de notre existence, de la naissance à la mort, en passant par tout le reste, dont les difficultés comme le handicap, hein, dont vous parlez, tout à fait intéressant. Et je pense que ce sera opportun que, d'une manière ou d'une autre, dans les soucis ou ce qu'on pense de la façon de gérer, comme vous le dites très bien, hein, les problèmes de handicap, ne pas oublier la dimension fondamentale chrétienne que tous les personnes ont, et les chrétiens ils sont un peu sensibles et on n'ose pas penser que les choses dont nous souffrons sont aussi associées, soutenues par l'amour de Dieu, l'Esprit Saint. Et comme beaucoup de chrétiens, on ne pense pas que toutes les dimensions de notre existence, que ce soit la joie, la peine, le travail, le handicap, sont aussi en lien avec le souffle de l'esprit qui nous anime. Alors, j'aimerais qu'on... Par exemple, si les personnes sont concernées par la vie chrétienne, de manière plus explicite, elles osent aussi en parler à un prêtre qu'elles connaissent, ou la dimanche peut-être, il y a un service d'attention du diocèse aux maladies, je simplifie, mais histoire d'accrocher un chemin un peu chrétien dans cette question du handicap, comme toutes les questions de l'existence.
Ouais. Merci Charles, merci beaucoup d'être venu nous en parler à l'antenne ce matin. Je me tourne vers vous, Guillemette de Préval, parce que vous représentez ce matin l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, et même dans le dossier, on n'en parle pas forcément, mais le lien avec la foi dans tout ça, comment est-ce que vous avez rencontré peut-être des jeunes qui se sont tournés vers d'autres choses comme Dieu, par exemple?
Alors c'est vrai que de fait ça n'a pas été le point le plus saillant dans le dossier. Simplement s'il y a donc Jérémy à qui j'ai donné la parole un peu en fin de dossier et à qui je donne la parole plus longuement dans un podcast parce qu'on fait aussi des podcasts voilà qui s'appelle la lumière d'une rencontre. Et alors Jérémy donc lui il est séminariste donc il va devenir normalement devenir prêtre. Il est dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Et il a 39 ans aujourd'hui, donc c'est ce que j'évoquais. Lui, il avait cette capacité à prendre quand même beaucoup plus de recul. C'était un vieux jeune aidant, quoi. Enfin, il est revenu sur ses années de jeune aidant. Et lui, il a grandi dans une famille chrétienne, etc. Et ce qui m'a marqué dans son témoignage, c'est que ce qui l'avait un peu aidé, alors qu'il avait mis complètement du côté de sa foi à partir de 15 ans à l'adolescence, il est vraiment revenu. Il a vécu une conversion à l'âge de 30 ans à peu près. Et ce qui l'avait aidé, c'est de se dire, peut-être la parole d'une religieuse ou d'un prêtre, je ne sais plus, évoquant le fait que lui, ça ne pouvait pas être un sauveur, parce que c'est un peu une tentation que certains aidants peuvent avoir, oui. L'envie d'aider tellement son proche, d'être partout, d'anticiper leurs besoins, d'être vraiment au service avec un grand S, quoi, en s'oubliant vraiment soi-même. Et ce qui l'avait aidé, c'était de comprendre, donc, étant chrétien, qu'il n'y avait que le Christ qui était le sauveur et que lui, il n'était pas le Christ, quoi. Donc, il n'avait pas endossé cette casquette-là de sauveur tout-puissant. Et au contraire, d'accepter de se faire aider, d'être vulnérable aussi. Et voilà, dans une lecture chrétienne, ça l'avait en tout cas beaucoup, beaucoup soutenu.
Mmh. Axel Landerlé, est-ce que vous avez retrouvé vos idées?
Bon, par rapport à ce que vient de dire Guillemette, là, pour le coup, c'est vraiment... C'est pour ça qu'il faut faire très attention au terme de héros.
Oui, je l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs.
Ouais, parce que, en fait, ce terme de héros, il est très enfermant. On a envie d'être sauveur, on a envie, effectivement... Les jeunes nous en parlent beaucoup. En fait, quand les gens me valorisent parce que je suis aidant, et donc j'essaye de l'être encore plus. Sauf que c'est... À un moment, c'est une construction identitaire, la jeunesse. Il faut aussi qu'ils puissent vivre leur propre vie. Et si on valorise trop ce rôle, qui est normalement aussi, certes, il y a la solidarité intrafamiliale, mais il y a quand même aussi la construction personnelle.
Je me fais l'avocat du diable, j'aime bien, mais vous avez dit tout à l'heure vous-même que c'était une situation qui n'était pas ordinaire. Donc ce sont des jeunes extraordinaires et les héros sont des personnes extraordinaires.
Mais extraordinaire, c'est en dehors de l'ordinaire, c'est pas forcément mieux. Ça peut être, ils veulent pas être victimes.
Je joue sur les mots.
Oui, ils veulent pas être considérés comme des victimes, ils veulent pas être considérés comme des héros. On est vraiment, ils veulent. En fait, on est dans l'âge de la normalité. Je pense notamment à l'adolescence. Ouais. Ils veulent être le plus normaux possible. C'est aussi pour ça qu'ils se taisent. C'est parce qu'ils veulent pas que ça se sache, ni ce qu'ils font, ni ce qu'ils vivent. Et pour revenir aussi sur la question de la maladie psychique, nous on est très en lien avec l'UNAFAM, hein, qui est une association d'accompagnement de famille, hein, qui a 60 ans aujourd'hui. Parce que ce sont les maladies les moins déclarées. La plupart, là, tout à l'heure, Guillemette parlait d'une sœur schizophrène. Les maladies psychiques sont rarement déclarées comme des handicaps. C'est très long pour que la personne malade se reconnaisse comme malade quand elle est en crise, et puis encore moins face des reconnaissances handicap, etc. Donc effectivement, et on l'a vu avec l'enquête du Crédoc l'année dernière, que ce sont les jeunes les plus en souffrance, les jeunes qui accompagnent des proches qui ont des difficultés psychiques, toutes difficultés confondues, de l'autisme, des maladies psy, des Alzheimer en décompensation, etc. Et donc, il faut faire très très attention à ces jeunes qui, eux, ne parleront pas, parce que parler, c'est dire aussi que les proches sont malades de maladies honteuses, cachées, taboues. Donc, ce sont les jeunes, ces jeunes aidants-là qui parlent le moins, et donc auxquels il faut, nous, qu'on soit le plus attentif, il me semble, parce que ces maladies ne se voient pas.
Alix de Soliane, vous êtes d'accord avec ce que nous dit Axel ?
Oui, complètement. Je me souviens d'une jeune fille qui venait, alors jeune ado, elle devait être en sixième, cinquième, et qui venait sur l'atelier fratrie, et elle disait que son frère était 10. Vous savez, les troubles 10. En fait, son frère, il avait un handicap psychique, mais ça s'était tu dans la famille. Alors ça fait un moment, je sais pas si cette maman se reconnaîtra si jamais elle écoutait, mais je pourrais un peu reprendre de ses nouvelles. Elle est pas là en ce moment sur Soliane, mais voilà, ça m'avait interpellée, voyez, de pas nommer les choses. Donc je suis complètement d'accord que quand on a un handicap psy, d'abord on ne sait pas si ça va durer longtemps. Bon, c'est une crise. Est-ce que c'est pas, voyez, voilà, est-ce que ça va passer parce qu'il y a l'intelligence, parce que voilà. C'est très complexe, hein. Quand vous avez la capacité de raisonner, on croit que vous êtes ordinaire. Mais pourtant, vous avez des déviances, vous avez des façons de faire, au-delà de peut-être une addiction aux écrans, à la cigarette ou aux drogues. Vous fonctionnez bizarrement, quoi. Et, ouais. Et vous entraînez tout le monde dans un, à côté, là, de votre délire, etc. Du coup, voilà, ça n'est pas du tout dit. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire de
ça?
Qu'est-ce qu'on va faire de ça? C'est une personne qui aurait eu des épisodes psychotiques, psychiques, enfin avec handicap psychique, elle peut avoir une RQTH, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais est-ce qu'elle va mettre RQTH sur son CV pour être, quand elle est en forme, hein, qu'elle n'est pas en crise, ça passe pas, hein. Ça fait trop peur. Donc, on n'est pas du tout prêt sur le handicap psychique à accepter cela. Et voilà. Donc, c'est pour ça que dans nos familles aussi, ça se dit pas trop.
On arrive à la fin de cette émission. Ça passe très vite. Axel Anderlé, j'aimerais qu'on parle du festival qui va avoir lieu le 6 juillet à Sainte-Foy-lès-Lyon. C'est en région lyonnaise. Festival pour les jeunes aidants, donc de 7 à 25 ans. Ce sera la première édition?
Non, c'est la deuxième édition. On a fait la première en 2022 au sortir des crises sanitaires successives. On avait vraiment besoin de joie et de se retrouver. Donc, on a fait une grosse fête à l'extérieur. Et c'était extrêmement émouvant. Magnifique journée. Je vous invite à aller voir les vidéos sur notre chaîne YouTube, ouais. La Pause Brindille. Et donc là, moi, j'aimerais bien inviter des jeunes frères et sœurs de l'association Soliane. Bon, enfin, inviter, c'est déjà gratuit. Ouais. Mais on a des associations qui s'organisent un petit peu partout pour affréter des minibus et dire, on vient avec des jeunes de notre asso. Et on vient, nous, on passera la journée à Lyon, ouais. Et puis on vous confie, les frères et sœurs. Donc de 7 à 25 ans, bienvenue Alix, à vos jeunes, on se recontacte hors antenne avec grand plaisir.
Voilà, l'invitation est lancée. Formidable, on a créé des rencontres ce matin, Guillemette, c'est sympa. Merci beaucoup.
C'est beau, c'est beau.
Merci vraiment Axel Anderlé d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et rendez-vous sur lapausebrindille.org pour en savoir plus. Merci Alix. Rendez-vous sur le site associationsoliane.fr pour retrouver plus d'informations. Merci à l'équipe de Marseille également qui vous accueillait ce matin, notamment à Fred et à Maude. Et merci Guillemette de Préval une fois de plus pour cette émission et votre participation.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes journaliste pour la revue Ombre et Lumière de l'Office chrétien des personnes handicapées, à retrouver sur le site internet och.fr, hein, tout simplement, c'est plus simple, et on mettra tous les liens sur notre site, rassurez-vous. Merci à toutes et tous pour vos très nombreux appels ce matin, vos messages, et également qu'on n'a pas pu tous lire en direct. Merci à Nicolas, Baptiste et Catherine à la réalisation, et puis à l'équipe de Radio Notre-Dame. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain, rassurez-vous, vendredi à 9h avec le Presse Club, et puis 10h, votre émission préférée de jardinage. Prenez-en de la graine. Bonne journée à tous.